Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jusqu'au 24 juillet, le musée de l'armée propose une exposition sur l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène. Son titre, La conquête de la mémoire. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de cette fin de l'épopée napoléonienne. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Qui de plus indiqué que Thierry Lenz pour évoquer les dernières années de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène ? Je suis heureux que le directeur de la Fondation Napoléon puisse être des nôtres cet après-midi. Et à la fin de cette émission, je répondrai à la question de Laure sur les origines d'un plat tout à fait napoléonien, le poulet maringot.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a 200 ans, au printemps 1816, l'empereur Napoléon, déchu, exilé très loin dans une île perdue du milieu de l'Atlantique Sud, achève d'emménager dans une demeure qui sera pour lui la dernière. Et au fond de lui-même, il le sait bien. Longwood House sera donc le dernier séjour de Napoléon. Le 14 avril est arrivé sur l'île de Sainte-Hélène un nouveau gouverneur britannique, Sir Hudson Lowe. Le moins que l'on puisse dire est que ses deux premières entrevues avec le grand homme sont orageuses. Il ne veut pas reconnaître à Napoléon le statut qui est le sien ou qu'en tout cas l'ancien empereur a bien l'intention de conserver. Du côté anglais, on cherche à rabaisser le général Bonaparte au rang d'un simple prisonnier d'État, alors qu'autour de Sa Majesté l'Empereur Napoléon Ier, le petit groupe des fidèles entre les fidèles peine à maintenir l'illusion d'un semblant de cour impériale. Le prisonnier ne cède rien. Dans son bel article du catalogue de l'exposition du musée de l'armée, Thierry Lenz écrit « On l'a qualifié de tragédie ou de drame, mais l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène est d'abord un événement réel. D'octobre 1815 à mai 1821, des hommes de chair et de sang, un empereur déchu et ses compagnons d'infortune, ont bien vécu sur cette île, confinés et entassés dans de petits logis, sans liberté de mouvement et de communication, alors que seul leur chef était vraiment prisonnier. Les autres acceptèrent de partager son sort et, sous peine de devoir rentrer en Europe, l'attestèrent même par écrit. Tous y ont affronté tour à tour, parfois simultanément, les grandeurs et les petitesses de l'existence d'une frêle communauté d'exilés avec ses rivalités, ses joies et ses peines, ses amitiés et ses haines recuites. Deux généraux de l'Empire faillirent se battre en duel pour une peccadille, deux femmes se toisèrent de part et d'autre d'une pauvre table où s'étalaient pourtant les trésors du Biennet et les porcelaines de Sèvres. Tous transpirèrent dans leurs costumes de cour et écoutèrent après dîner les déclamations à n'en plus finir de l'homme dont on avait du mal à croire qu'il fut l'inspirateur du grand Talma, l'acteur vedette du théâtre français. Un cheval qui s'embourbait devenait une aventure et une paisible vache abattue dans les jardins remplaça dérisoirement les chasses impériales. La réclusion, même volontaire, le temps qui ne passait pas et la moiteur des lieux n'arrangèrent rien. Qui sont-ils, au juste, ces hommes et ces femmes qui ont accepté de quitter tout pour suivre Napoléon sur son îlot océanique ? À bord du Bellérophon, moins d'un an plus tôt, s'étaient embarquées des personnalités plutôt obscures, singulièrement disparates. Sont-ils demeurés fidèles à l'empereur déchu par intérêt, par admiration, par bravade, par aventure, par crainte de représailles de la part du nouveau gouvernement français ou par simple dévouement, pourquoi pas ? Selon les cas, tous ces motifs peuvent se défendre. On trouve dans ce groupe des officiers de grades divers, dont un colonel et un lieutenant-colonel, même cinq généraux, y compris le grand maréchal Bertrand, ancien chambellan des Tuileries, aucun membre de l'ancienne famille impériale, les Bonaparte, et pas un seul haut fonctionnaire. Tout ça constitue un maigre carré d'une quinzaine de personnes. D'emblée, les Britanniques, les geôliers de l'illustre captif, ont effectué le tri. Ils ont notamment mis de côté le général Savary, duc de Rovigo, et le général Lallemand, tous deux inscrits sur la liste des proscrits établis par le gouvernement de Louis XVIII. Et après ce tri sont donc demeurés trois généraux, Bertrand, Montholon et Gourgaud. un colonel, Plana de la Faye, et le chambellan Lascaz. Les Anglais demandent à Bonaparte d'en conserver trois. Il en inscrit quatre sur sa liste. Bertrand, Montholon, Lascaz présenté comme un simple secrétaire, et Plana de la Faye. Il se trouve que Gourgaud est donc évincé, il proteste, il commence déjà à manifester son mauvais caractère. Napoléon tente de lui faire comprendre qu'il pourrait dans l'avenir avoir besoin de la souplesse, avoir besoin de la jeunesse d'un officier supérieur qui ne soit pas général. Ce Plana de la Faye qui justement pourrait jouer une sorte de rôle d'intermédiation, un rôle de diplomatie. Gourgaud ne veut rien savoir et finalement, à l'issue d'une dispute assez pénible, Napoléon cède. Il va inscrire le nom de Gourgaud à la place de La Faye. De leur côté, les Britanniques acceptent Lascaz en surnuméraire et l'on peut dire qu'à partir de ce moment, on est là en décembre 1815, à partir de ce moment, voilà constitué l'entourage du grand homme pour ce qui lui reste à vivre.
Sur Europe 1 pour cette émission cet après-midi consacrée à l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène avec un extrait d'Agnus Dei, Paris Mouvrigny, la bande originale du film Napoléon. Restez avec nous, Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, avec vous, Franck Ferrand, nous sommes à Sainte-Hélène, puisque vous nous faites revivre l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène.
Alors entrons dans la galerie des portraits de Sainte-Hélène. Le premier nom qui se soit imposé à l'ancien empereur, c'est le grand maréchal du palais, le comte Henri Gatien Bertrand. Qui est-il, ce Bertrand? C'est un homme qui a 42 ans à l'époque, même s'il en paraît sans doute davantage. Il est assez frêle de constitution, il a la mine bourrue, mais des yeux, et tous ses tableaux nous le montre, des yeux expressifs, bons. Le docteur Paul Gagnère, qui a été en son temps l'auteur d'une fresque en trois volumes sur Sainte-Hélène et qui a familiarisé les Français avec cet îlot du bout du monde, Gagnère nous le présente ainsi. Toute sa carrière avait été bâtie dans l'ombre de l'empereur. Issu d'une famille bourgeoise du Berry, il était venu de bonne heure à Paris et avait participé le 10 août 1792, sous l'uniforme de garde nationale, à la défense des Tuileries. Entré dans l'armée à sa sortie de l'école du génie militaire, il prit part en 1796 à la campagne d'Italie aux côtés du jeune général Bonaparte, qu'il suivit 2 ans plus tard en Égypte et dont il deviendra l'aide de camp. Rentré en France avec le grade de général, il demeura attaché à la personne du premier consul puis de l'empereur, qui le fit comte et grand aigle de la Légion d'honneur en 1809, gouverneur des provinces illyriennes en 1811, commandant du 4e corps de la Grande Armée en 1812 et enfin, bien que rien ne l'ait prédestiné à ses hautes fonctions, grand maréchal du palais à la mort de Duroc. Bertrand avait donc suivi Napoléon pendant toute sa carrière, il l'a suivi à l'île d'Elbe, il a repris ses fonctions aux Tuileries pendant les 100 jours et ensuite, il a pu assister, consterné comme tout le monde, au désastre de Waterloo. Bref, un vrai fidèle qui, pour rien au monde, n'aurait abandonné son empereur. Moins douce et moins fidèle se révélera son épouse, Fanny, qui l'a suivie avec leurs 3 enfants. La comtesse Bertrand est une femme impérieuse, orgueilleuse, capricieuse, toujours prête à se poser en victime. La vérité, c'est qu'elle ne parviendra pas, et on peut la comprendre d'une certaine manière, tant les conditions de la captivité de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène étaient compliquées, elle ne parviendra pas à l'idée de se retrouver ainsi prisonnière de fait, loin de tout, dans cette espèce de néant qui l'oppresse. Il faut dire que le cadre de vie des habitants forcés de Longwood n'a rien qui puisse séduire la comtesse Bertrand. Je cite à nouveau nouveau Thierry Lenz dans le catalogue de l'exposition du musée de l'armée. Si la maison de Longwood pouvait paraître confortable à un bourgeois ou un gentleman farmer, elle ne convenait pas à un homme qui avait connu les plus vastes palais ou qui, même en campagne, disposa toujours d'un niveau de confort digne de son rang. Derrière des murs suintants, il jouissait pour lui-même de 150 mètres carrés distribués en une antichambre ou salle de billard, un salon, une salle à manger, un cabinet de travail, une chambre à coucher, une bibliothèque et une salle de bain. Dans les bâtiments attenants, parfois aménagés à la hâte, on casa la suite comme on put. En comptant les employés locaux, de 40 à 50 personnes vécurent ou s'activèrent en permanence autour du sanctuaire des appartements de l'empereur, où nul ne pouvait pénétrer sans y avoir été autorisé, l'étiquette était ce qui permettait encore à Napoléon de rester empereur, titre que les Anglais lui déniaient, n'acceptant que celui de général. Toujours cette volonté des Anglais de rabaisser l'empereur. L'autre dame de cette petite cour, un petit peu dérisoire, c'est la comtesse de Montholon. Alors elle est d'un physique plus agréable et d'une humeur nettement plus reposante. Elle a toujours cette espèce d'égalité d'humeur qui la rend agréable. Elle partage surtout, au fond, l'ambition de son mari, faire main basse sur la fortune présumée, sur la prodigieuse fortune que l'on attribue encore à cette époque à l'empereur déchu. Est-ce qu'Albine de Montholon est devenue la maîtresse de Napoléon ? Eh bien, ça fait partie des questions que j'ai à poser à Thierry Lenz, car il est sans doute plus au fait que moi. Il me semble que oui, mais enfin, nous allons voir ce que lui en pense. Le mari, c'est un homme de 32 ans, donc Charles Tristan de Montholon, un grand brun, lui-même bien fait de sa personne, et dont la carrière en zigzag s'est un petit peu faite au gré des circonstances. Il a été chambellan de Joséphine, qui avait du goût, puis ambassadeur auprès du grand-duc de Wurtzbourg, et c'est là qu'il a rencontré Albine, qui elle-même était à l'époque déjà deux fois divorcée. Le couple formé par les Montholon semble être demeuré à Longwood, surtout par intérêt, il faut bien le dire. Rien à voir avec le général Gourgaud. Gaspard, pour les intimes, fils d'un premier violon à la cour de Versailles, polytechnicien, lui a été dans les premières années de l'Empire officier d'ordonnance de l'empereur, ce qui lui a permis de se distinguer lors de la campagne de Russie et de devenir baron d'Empire et commandant de la Légion d'honneur. Il a été fait général de brigade à Waterloo après avoir pourtant trahi l'empereur en 1814. Napoléon avait à son égard des sentiments un peu partagés. Bertrand, Montholon, Gourgaud, voilà donc le trio des compagnons d'infortune du plus célèbre prisonnier politique de tous les temps.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et pour cette émission consacrée à l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, Franck, vous nous présentez cet après-midi les figures importantes de cet exil.
Alors je parlais de Bertrand, de Montholon, de Gourgaud. Il convient d'ajouter un quatrième larron, celui à qui Napoléon va dicter son fameux mémorial. C'est Marie-Joseph Emmanuel-Auguste de Lascaz, accompagné de son fils de 15 ans, Emmanuel. Tous deux, le fils mais surtout le père bien sûr, ont suivi l'empereur pour une raison que nous autres amoureux d'histoire pouvons comprendre mieux que d'autres. Ils se disent, en tout cas Lascaz père se dit, que l'occasion est unique et fabuleuse de fréquenter intimement un des plus grands hommes de l'histoire et de profiter de cette privauté pour lui soutirer des souvenirs extraordinaires. Évidemment, Napoléon va se laisser faire. Il est content, somme toute, de trouver en Lascaz un confident intelligent, attentif, agréable. Ai-je besoin d'insister sur la jalousie qu'une telle privauté va forcément générer dans le petit groupe ? Impassible, nous dit de nouveau Gagnère, Lascaz affecte la plus totale indifférence et se garde bien de répondre. Il sait en effet qu'il a su se rendre indispensable, qu'il est désormais l'homme de confiance du proscrit, celui qui recueille ses confidences et est chargé de les transmettre aux générations futures. Dans le sillage du héros, il se sent lui aussi atteindre à l'immortalité. Il n'empêche, l'atmosphère se dégrade constamment et la famille Lascaz, enfin le père et le fils, surtout le père, vous l'aurez compris, se trouve être en but à l'hostilité générale du petit groupe. Cette lutte sournoise, toujours prête à se rallumer, nous dit Gagnère, à s'aggraver, porte à la cause des exilés le plus grave préjudice. À plusieurs reprises, le gouverneur de Sainte-Hélène ne manque pas d'évoquer ses disputes dans ses rapports aux autorités de Londres, si bien que certaines feuilles d'information publiées dans divers pays d'Europe vont bientôt s'en faire l'écho. Dans les chancelleries comme dans les milieux hostiles à la personne de l'empereur, on s'en réjouira et on en fera des gorges chaudes. Tandis qu'à Longwood, cette petite guerre, en dépit des mises en garde, voire même des menaces, ne connaît jamais aucun répit. La carrière de Lascazes à Sainte-Hélène va être abrégée à la suite d'une sombre affaire de courrier qu'il aura essayé de faire passer en Europe à l'insu des Anglais par l'intermédiaire d'un ancien serviteur assez douteux. Lascazes est enlevé littéralement à Longwood sur ordre du gouverneur. Il va faire l'objet d'enquêtes, de plaintes, de tractations infinies. Ça va durer 2 mois et finalement, il est expulsé de l'île pour la plus grande joie du petit entourage de l'ancien empereur, de la pseudo-cour amère et urticante. Question, Lascazes a-t-il organisé lui-même ce faux pas pour trouver une porte de sortie et s'en aller tranquillement publier les confidences qu'il a finalement recueillies du grand homme? Je poserai là encore la question dans un instant à Thierry Lenz. Après Lascazes, ce sera au tour de Gourgaud de quitter Sainte-Hélène. Je vous l'ai dit, Gourgaud est d'un tempérament difficile, d'une humeur bougonne et même chagrine. Il a fini par alourdir le climat déjà pesant de Longwood et sa haine envers le couple Montholon est devenue telle qu'il va multiplier les esclandres, y compris des scènes avec l'empereur, des scènes très orageuses. Il va jusqu'à provoquer Montholon en duel. Et avant que l'irréparable ne soit commis, il finira donc par demander en 1818, en février 18, l'autorisation de quitter l'îlot d'exil. Il espérait sans doute que Napoléon refuse, mais en l'occurrence, la demande est acceptée. Son comportement, une fois rentré en Europe, sera tellement déplacé, finalement tellement peu digne de la confiance de l'empereur, que Napoléon finira par l'apprendre sur son île et qu'il demandera que son nom ne soit plus jamais prononcé à Longwood. Fascinant et triste à la fois, l'amer constat de cette déréliction. Qui gardait à la fin de ce carré de fidèles devenus tous plus ou moins infidèles à leur façon? Alors, je ne vous ai parlé ici que des compagnons d'exil du grand homme. Il conviendrait d'atténuer peut-être un peu cette noirceur par l'évocation des serviteurs qui en général se comportèrent un peu mieux, à commencer par le premier d'entre eux, le jeune valet Louis Marchand, que Napoléon avait entraîné dans sa chute et qui, jusqu'au bout, est resté fidèle, est resté une sorte de modèle de dévouement et de droiture. Alors je pourrais vous citer ici le dictionnaire historique de Sainte-Hélène de monsieur Jacques Massé, mais je préfère clore comme je l'ai commencé en compagnie du docteur Gagnère qui nous parle de Louis Marchand. Son attitude, nous dit-il, son attitude à Sainte-Hélène aurait pu servir de modèle à tous ceux qui s'étaient engagés à rendre plus douce la captivité de l'empereur. Toujours prêt à répondre au moindre appel, ne prenant jamais d'initiative déplacée, mais ne laissant pas échapper la moindre occasion de se rendre utile, d'une fidélité à toute épreuve, affichant en toutes circonstances une sérénité exemplaire, se gardant de manifester la plus petite lassitude d'un exil dont personne ne pouvait prévoir la fin, il fut pour le proscrit le plus désintéressé et le plus délicat des compagnons. Celui-ci ne s'y trompe pas, nous dit Gagnère. À plusieurs reprises, alors qu'il sentait le vide se faire autour de lui, Napoléon lui répéta « Ils partiront tous, mon fils, et tu resteras seul avec moi pour me fermer les yeux ». Marchand devait d'ailleurs recevoir le plus magnifique témoignage de reconnaissance. Dans son testament, en effet, l'empereur mourant lui décerna implicitement le titre de comte et précisa « Les services qu'il m'a rendus furent ceux d'un ami. » Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour.
Nous venons de faire connaissance avec le petit groupe qui a accompagné Napoléon dans son dernier séjour à Sainte-Hélène. Alors, tout ça, bien entendu, est tissé de haines recuites et de petites rivalités d'intérêts. Avec vous, nous allons dans un instant essayer d'y voir plus clair.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Flammarin.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, nous nous intéressons à l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène. Avec votre invité, vous recevez Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Et vous faites cette émission à l'occasion de l'exposition Napoléon à Sainte-Hélène, la conquête de la mémoire. C'est jusqu'au 24 juillet au Musée de l'Armée aux Invalides.
Commençons peut-être, si vous le voulez, Thierry, par dire un mot de cette superbe exposition actuellement présentée au Musée de l'Armée et qui a réussi à glaner un peu partout à Sainte-Hélène, dans les musées, dans les collections privées, des objets qu'on voit enfin réunis, rassemblés. C'est assez magnifique.
Oui, c'est exceptionnel puisque ces objets n'avaient pas été réunis depuis 1821. Et par le hasard, un hasard bienveillant pour le musée de l'armée, nous, dans le cadre d'une opération de restauration de la maison de Longwood, nous avons pu faire revenir en France une trentaine de meubles originaux de la maison de Longwood pour restauration. Et donc ces meubles, qui sont des meubles simples, mobilier anglais du XVIIIe siècle, rejoignent les meubles fabuleux que Napoléon avait pu amener.
Alors,
avec
c'est ça.
Lui.
Donc il y a trois provenances, si l'on peut dire. Il y a d'une part le mobilier que l'ancien empereur amène avec lui dans ses bagages d'une certaine façon. Alors là, on a une athénienne de Biennet, enfin des choses absolument sublimes. Il y a le mobilier que les Anglais ont soustrait à la demeure du gouverneur pour essayer de meubler un peu ce pavillon de Longwood. Et puis, il y a des meubles achetés par l'empereur sur place et qui ont une certaine grâce, d'ailleurs, il faut le dire.
Oui, alors c'est vrai que on va dire que dans nos sentiments bourgeois, tout ça, la grâce, tout ça est très joli, mais il faut toujours se rappeler la façon dont Napoléon était meublé, y compris en campagne d'ailleurs. Il y a eu d'autres expositions qui ont montré son mobilier de campagne. Et effectivement, il s'est retrouvé dans ce lieu, en ayant descendu de plusieurs niveaux. D'ailleurs, il y avait une pièce à Longwood, le salon, la pièce où il est mort d'ailleurs, qui était exclusivement consacrée aux merveilles qu'il avait pu ramener d'Europe, de telle sorte que lorsqu'il recevait un visiteur anglais ou non, il apparaissait quand même dans toute sa splendeur d'empereur.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait quand même ce grand mobilier, cette vaisselle absolument extraordinaire, tout ce grand service en Sèvres qui l'avait suivi, des aiguières, enfin, etc. Tout ce qu'il y avait de plus magnifique, de plus rutilant, lui-même pouvait se présenter dans son grand uniforme qu'on voit complet à l'exposition,
le
dire.
C'est rarissime, puisque les provenances du gilet, de la culotte, du chapeau et de la mine sont pas les mêmes. Ça vient un petit peu des quatre coins de France et c'est assez exceptionnel de voir un véritable uniforme porté par Napoléon à Sainte-Hélène, parce qu'on est sûr que ces vêtements-là étaient à Sainte-Hélène.
Alors c'est amusant de faire cette émission sur l'exil dans un studio où nous sommes aussi exilés pour des raisons techniques aujourd'hui. Nous sommes dans la même gêne, si je puis dire, qu'étaient tous ces gens. Car il faut bien comprendre que la difficulté tenait à un décalage immense entre d'un côté le protocole, l'étiquette de la cour que le grand maréchal Bertrand essayait tant bien que mal de maintenir. Alors on se donnait des titres, etc. On soupait, comme vous le dites vous-même, dans le catalogue, on soupait dans le grand service des Tuileries. Et puis à côté de ça, disons les choses, on était au milieu d'une ferme, loin de tout, dans un îlot battu par les flots, un îlot tellement isolé d'ailleurs qu'on n'arrive même pas à y installer un aérodrome de nos jours. C'est quand même extraordinaire.
Oui, alors vous êtes un peu sévère avec nos amis britanniques. L'aéroport est terminé, il est en état de fonctionnement, mais on s'est rendu compte que les vents étaient très très forts à l'atterrissage et que donc il fallait renforcer les mesures de sécurité. On ne peut pas arrêter le vent, donc on va renforcer les voitures de pompiers. Et puis surtout, il faudra que les pilotes soient très attentifs au moment de l'atterrissage. Mais enfin, ça sera jouable.
Michel Danquoine Martineau, qui est le consul honoraire de France à Sainte-Hélène, a fait de gros travaux, il faut le dire. Vous avez participé au nom de la Fondation Napoléon, là.
Oui. Ce sont des travaux qui ont été décidés par le ministère des Affaires étrangères, qui est propriétaire des lieux, et pour lesquels la Fondation Napoléon a organisé une souscription internationale. Enfin, je vous fais l'affaire très courte. On a pu investir 2 300 000
euros. C'est pas mal.
Dans les domaines nationaux, qui ont été entièrement restaurés, réorganisés sur le plan de l'accueil du public, etc. Et qui, aujourd'hui, sont confiés en gestion à une société, on va dire privée, mais dont les actionnaires sont trois personnes publiques, qui va permettre une gestion beaucoup plus souple dans l'hypothèse où l'aéroport amènera beaucoup de touristes. Ça permettra, un, de dégager l'état d'un budget qui n'est pas énorme, mais enfin quand même, à l'heure actuelle, il faut faire des économies partout. Et puis ça permettra au domaine de vivre de leurs propres ressources et donc de continuer à investir dans la conservation.
Et il faut peut-être insister sur le caractère très préservé de ces lieux. On a l'impression, moi je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais on a l'impression, dit-on, je me rappelle notamment le très bel écrit qu'avait tiré de sa visite Jean-Paul Kaufmann il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on a l'impression d'être dans l'intimité de l'empereur et de ses proches, il y a 2 siècles, comme si tout s'était arrêté et qu'on avait encore la plaque sensible des événements. Hein.
Oui, on s'attend à tout moment à voir arriver non pas l'empereur, qu'on ne voyait pas aussi facilement, mais le grand maréchal Bertrand pour nous demander ce qu'on fait dans le jardin.
C'est ça.
C'est vrai que c'est admirablement conservé. Bon, avec la restauration supplémentaire, on a pu reconstituer véritablement le décor intérieur jusqu'aux tapis et aux tapisseries. Donc c'est aujourd'hui véritablement dans le jus de 1821. Mais les touristes sont parfois un peu surpris lorsqu'ils arrivent et même un peu déçus parce que vous parliez de la tout à l'heure, qui fait une description de Longwood absolument dantesque. Hein, on a l'impression qu'il y fait toujours
atroce,
nuit,
oui,
voilà, etc.
La pluie, le vent.
Voilà. Or, effectivement, il y a du vent et il pleut, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que quand on arrive là-bas, on a un jardin luxuriant. Nous sommes sous les tropiques. Ce jardin a été dessiné par Napoléon à la fin de sa vie à Sainte-Hélène. Il a donc été reconstitué comme tel.
Même ce dessin qui montre Napoléon jardinier qui a fait le tour de l'Europe. Hein.
Alors, ça a fait le tour de l'Europe. On peut dire quand même qu'il a jardiné comme jardinait Napoléon. C'est-à-dire qu'il a fait des plans et puis ensuite d'autres sont allés creuser les tranchées. Mais voilà, c'est presque beau quand on arrive. Si on arrive et qu'on a la chance d'avoir du soleil, cet endroit est très beau. Et donc, les visiteurs qui veulent du Las Casas, qui veulent du mémorial de Sainte-Hélène, sont parfois un peu déçus.
Ça m'amuse quand vous dites si on arrive et qu'on a la chance, parce qu'il faut déjà y arriver. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut prendre un bateau, ça demande 10 jours de traverser depuis le Cap.
10 jours aller-retour, donc 5 et 5.
Oui,
oui,
5
oui,
et 5,
oui, mais c'est long. Oui,
c'est une véritable expédition, ce qui rend d'ailleurs la chose rare et intéressante.
Quand
on pourra y aller en avion, ce sera un petit peu moins poétique, peut-être.
Exactement. Alors, ceux qui auront eu la chance d'aller en bateau le raconteront jusqu'à la fin de leur vie.
Ils pourront dire j'y étais. Alors, la grande affaire, bien sûr, de Sainte-Hélène, c'est la question de la maladie et de la mort de l'empereur et l'éternelle, j'ai presque envie de dire la sempiternelle question de son éventuel empoisonnement. Je vous propose aujourd'hui, Thierry Lenz, de ne pas entrer dans cette affaire et de parler plutôt de tout le reste qu'on a tendance à négliger. Alors dans un instant, on va revenir à ces personnalités qui entouraient de si près Napoléon et qui se sont si mal comportées pour certaines d'entre elles. Avant cela, un mot peut-être du gouverneur et des Anglais d'une façon générale. Ils n'ont pas été très fair-play, si je puis dire, avec l'ancien homme d'État.
Oui, on a beau être anglophile et essayer de leur trouver toutes les excuses.
Moi j'aime bien les Anglais, mais bon.
On n'en trouve pas beaucoup. Hein. Il faut reconnaître que alors, le gouverneur, on a envoyé là-bas un officier qui était très capable, parce qu'il a été un excellent gouverneur de l'île. Très mauvais geôlier, mais excellent gouverneur de l'île. Mais qui avait reçu des ordres à Londres, notamment de Lord Bathurst, hein, qui était le ministre de la guerre, qui était vraiment d'une très très grande sévérité. Et comme c'était un officier obtus, il attendait toujours confirmation de ses initiatives, ce qui veut dire qu'on avait 3 mois aller, 3 mois retour. On lui posait une question au mois de janvier, on avait la réponse au mois de juillet. Et entre-temps, il ne faisait rien et il essayait de resserrer. Et effectivement, il a eu un comportement extraordinairement mesquin, y compris après la mort de Napoléon, puisque vous savez qu'il refuse qu'on mette Napoléon sur le tombeau, il veut qu'on mette Napoléon Bonaparte, ce qui fait que les Français disent qu'il n'y aura aucune inscription. Mais ça, c'est un des aspects, on va dire, un aspect dramatique, mais pas le plus important. Il va réduire les crédits, il va demander qu'on réduise le personnel, d'où le départ d'un certain nombre de collaborateurs domestiques de Napoléon, etc., etc.
Qui vient à Sainte-Hélène ? Qui en repart ? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, vous nous racontez l'histoire de cet exil au milieu de l'océan Atlantique, Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène.
On aurait tendance à l'oublier, mais Napoléon sur cette île pourtant tellement lointaine, il faut des semaines et des semaines de traversée pour atteindre cet îlot totalement perdu au milieu de l'Atlantique Sud. Napoléon va quand même recevoir quelques visites à Longwood, à Sainte-Hélène, Thierry Lenz.
Il va recevoir d'abord énormément de visites. Il faut savoir que Sainte-Hélène était une île obligatoire lorsqu'on voulait passer le cap de Bonne-Espérance, puisqu'on y faisait de l'eau et on récupérait des citrons, évidemment pour éviter le scorbut, etc. Donc il y avait 1000 bateaux qui s'arrêtaient chaque année à Sainte-Hélène.
Ça, c'est important de le souligner, voilà. Parce que ça montre que ça n'est quand même pas si perdu que ça en allait.
Voilà. Et d'où la nervosité du gouverneur. Hein. 1000 bateaux, c'est 1000 fois le risque que quelqu'un tente quelque chose.
1000 contrôles à opérer.
Voilà. Et donc, les gens passant, revenant des Indes ou allant aux Indes, s'arrêtaient, et beaucoup de dignitaires anglais, de lords anglais, ont voulu rencontrer Napoléon. Et au début, Napoléon les a reçus très facilement, parce que il pensait que, à leur retour en Angleterre, il plaiderait sa cause et que, finalement, on l'autoriserait à s'installer un peu dans la campagne anglaise, dans un petit cottage ou que sais-je encore. Ça n'est qu'après 1818, lorsque le congrès d'Aix-la-Chapelle a décidé que Napoléon resterait à Sainte-Hélène, donc mourrait à Sainte-Hélène, que Napoléon s'est enfermé, c'est totalement enfermé dans Longwood et a refusé les visites.
Et s'est enfermé en lui-même, si l'on peut dire, parce qu'on va le voir atteindre des cycles dépressifs à partir de 1818.
Hein, oui, c'est un homme, d'abord c'est un homme malade, enfin bon, je sais bien que nous avons décidé de ne pas en parler, mais c'est un homme qui arrive malade à Sainte-Hélène.
Malade, bien sûr, oui.
Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un homme en bonne santé, il a jamais été vraiment en bonne santé, et puis l'ennui va vraiment le ronger. Imaginez qu'à partir du moment où il décide de ne plus sortir de Longwood, donc 1818, il va rester pendant 3 ans quasiment entre 4 murs, quoi. Des murs, comme on le disait tout à l'heure, suintants, avec un confort quand même tout à fait limité, avec des collaborateurs qui passent leur temps à se disputer.
Oui,
et puis, alors qu'il avait au début de son séjour pris en main les dictées du mémorial, les dictées de ses mémoires, car il a écrit aussi une grande partie de sa vie lui-même, en 1818, il va commencer à relâcher tout ça. Et on voit bien une espèce d'affaissement moral.
À partir du départ de Lascazes, il faut le dire.
Hein, oui, Lascazes était pour lui alors détesté par les autres, mais il a été très utile, Lascazes, parce qu'il a fait travailler l'intellect de Napoléon.
Ça, voilà.
Et effectivement, alors vous parliez tout à l'heure de l'opération départ de Lascazes. On est sûr aujourd'hui qu'il a évidemment organisé
son
départ.
C'est lui qui a tout fait, en fait.
Bien sûr, parce que Michel d'Ancoine Martineau, dont vous parliez, a retrouvé aux archives de Jamestown, donc que le docteur Gagnère n'avait pas pu aller voir, puisque ça faisait un peu loin. Aux archives de Jamestown, on a les rapports des Anglais. On sait très bien que la fameuse lettre envoyée à Lucien Bonaparte n'était pas une lettre, c'était 3 mots sur un bout de chiffon.
C'était
le prétexte.
En fait,
voilà.
Oui.
Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que Lascazes, pour le coup, a sacrifié son messager, qui était un jeune homme de Sainte-Hélène, qui a été arrêté, qui a été déporté à l'île d'Ascension et qui est mort dans la misère.
Oui.
Voilà. Alors, pas très glorieux le départ de Lascazes, mais à l'arrivée, c'est aussi
l'origine de la mythologie impériale, voilà, puisque à partir de là, c'est le mémorial de Sainte-Hélène.
Le mémorial de Sainte-Hélène, alors que Lascazes voulait publier immédiatement. On connaît le manuscrit original, il avait tout préparé pour le donner à un imprimeur et que ça paraisse. Mais manque de chance pour lui, les Anglais lui ont confisqué son manuscrit et ne le lui ont rendu qu'après la mort de Napoléon. Ce qui fait que le livre est sorti en 1823, donc 2 ans après la mort de Napoléon, mais il a eu un succès fou. Alors bon, pas au point d'être le best-seller du 19e siècle, comme on le dit parfois, puisque le best-seller du 19e, c'est le même qu'au 18e, c'est le même qu'au 20e,
oui,
c'est les Fables de la Fontaine. Mais il a eu un grand succès. Les enfants Lascazes écrivaient aux enfants Bertrand en 1845 qu'ils avaient vendu à peu près 40 000 exemplaires de la collection du mémorial, ce qui est pas mal pour le 19e siècle.
C'est incroyable pour le 19e siècle. Ce sont des chiffres qui ne sont jamais atteints, normalement, ou quasiment. Alors, Lascazes s'en va. Gourgaud va s'en aller, mais on a envie de dire bon débarras, parce que alors lui, c'était quand même assez,
Alors, pénible. Il a effectivement eu un comportement assez critiquable. Il s'est beaucoup rattrapé après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est réveillé, Gourgaud a été l'homme par lequel est venu le retour des cendres. Il a vraiment milité pendant des années pour le retour des cendres. Et comme il est devenu aussi premier officier d'ordonnance ou aide de camp de Louis-Philippe, il fait partie de ceux qui ont fait le lobbying autour du roi.
Alors, quelques compagnons seulement autour de Napoléon. Des rapports toujours tendus avec les Anglais, ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y ait d'amitié anglaise qui naisse entre Napoléon et ses geôliers à Sainte-Hélène.
Pas avec les geôliers, mais avec la famille Balcombe, par exemple.
Voilà, les Balcombe au tout début. Il y a cette fameuse aventure avec Betsy Balcombe. Donc, puisqu'on parle d'aventure, c'est là que je voulais en venir. Quelques enfants quand même dans l'entourage, il faut le dire.
Oui.
Et puis, 2 malheureuses femmes. Qui sont-elles, donc ?
Alors, donc vous parliez tout à l'heure assez justement de la comtesse Bertrand. C'est-à-dire que la comtesse Bertrand nous renvoie à son mari, en quelque sorte, qui est un homme vraiment de devoir et d'abnégation.
Voilà.
C'est-à-dire, à la fois vis-à-vis de Napoléon, on sait par ses écrits, par ce qu'il a dit à ses voisins, qu'il n'aimait pas Napoléon. Mais son devoir était de le servir. Donc il l'a servi. Et c'est un peu la même chose avec sa femme.
D'ailleurs, elle a failli partir et puis au dernier moment, elle laisse partir les mâles, mais elle reste. Elle,
voilà, elle a failli se jeter à l'eau, même au moment du départ de Sainte-Hélène, etc. Et au moment de l'agonie de Napoléon, Bertrand s'était presque laissé convaincre par sa femme de rentrer en Europe. Mais finalement, il s'est aperçu que Napoléon n'en avait plus pour longtemps et qu'il fallait qu'il soit là au moment de la mort de Napoléon. Mais c'est vrai que la comtesse Bertrand... Alors, c'est vrai que Napoléon a essayé de flirter un peu avec la comtesse Bertrand, qu'elle l'a remis à sa place de façon... de la façon dont on ne remet pas un empereur à sa place, et que là aussi, Napoléon s'est beaucoup éloigné du couple Bertrand.
Oui, bien sûr.
Alors du coup, il s'est rapproché
de l'autre couple,
puisque...
qui eux étaient un peu là de circonstance, disons-le. Oui, ce ne sont pas de vieux fidèles.
Non, ce ne sont pas de vieux fidèles, mais Montholon a eu... bon, évidemment, on le soupçonne de beaucoup de choses, mais bon, c'est un aventurier. Il a vu effectivement une bonne opportunité, puis il se trouve être le seul aide-de-camp du grade de général qu'on va autoriser à partir à Sainte-Hélène, parce que imaginez si Savary, le duc de Rovigo, ministre de la police, était allé à Sainte-Hélène, j'imagine que la vie de Tsenlo n'aurait pas été aussi facile.
Ça aurait été passionnant, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Les Anglais ne se sont pas fait avoir.
Oui. Alors, vous posiez la question d'une éventuelle liaison entre Napoléon et Albine de Montholon. On s'en doutait, mais elle est un peu établie maintenant avec le déchiffrement des papiers du Mamelouk Ali par Jacques Jourquin. Le Mamelouk Ali était un des domestiques de Sainte-Hélène qui a laissé beaucoup, beaucoup de papiers et qui raconte qu'un jour, la comtesse de Montholon sort de la chambre de l'empereur à moitié nue. Sauf à y avoir fait de la gymnastique, je ne vois pas ce qu'ils auraient fait d'autre.
Donc on est quasiment sûr.
Oui, on est quasiment sûr. Alors il y a un enfant qui naît. Il y a un enfant qui naît peut-être des amours de Napoléon et Albine de Montholon.
Qui va justifier d'ailleurs lire la colère terrible de Gourgaud.
Oui, oui, alors que Montholon est un personnage un peu d'ancien régime, c'est-à-dire si le roi honore votre épouse, il vous honore aussi un petit peu en même temps. Gourgaud, lui, c'est plus l'homme de la Révolution, alors il est furieux. Puis Gourgaud, en fait, a vis-à-vis de Napoléon des sentiments qui sont, toutes choses égales par ailleurs, mais quasiment amoureux, c'est-à-dire que c'est un amoureux toujours déçu.
Oui, c'est ça.
Napoléon a des mots très durs sur le comportement de Gourgaud, le comparant justement à un amoureux jaloux. Voilà. Et donc Gourgaud vit très très mal le fait que Napoléon, il se trouve bien avec Montholon parce que Montholon est bien élevé, Montholon fait son travail finalement, et puis Montholon ferme les yeux.
Alors il nous reste, et c'est très ancillaire comme traitement, il nous reste une minute pour parler du personnel, parce que là on ne parle que des compagnons, mais il y avait quand même pas mal de serviteurs, il y avait Ali quand même, il faut le dire. Bon, j'ai dit un mot tout à l'heure de Marchand qui a été formidable jusqu'au bout, lui.
Oui. Il y avait les frères Archambault qui s'occupaient des
Cypriani,
écuries. Qui, alors là aussi on sait maintenant de quoi il est mort, donc il y a plus de mystère, puisqu'on a retrouvé là aussi des rapports médicaux concernant la mort de Cypriani aux archives de Jamestown.
Et elle est médecin.
Et puis les médecins. Alors le médecin qui arrive à la fin, Antomarchi, c'est un médecin que Madame Mère a envoyé en l'ayant assez mal choisi.
Oui, parce qu'elle est convaincue que son fils n'est plus à Sainte-Hélène.
Voilà,
elle s'est laissée monter la tête par une voyante.
Voilà. La voyante lui a dit que la Vierge avait enlevé Napoléon. Et en fait, le pire dans cette histoire, c'est que le cardinal Fesch, qui vit avec Madame Mère à Rome, y croit aussi. Alors c'est quand même extraordinaire que cet homme d'église qui croyait en Dieu, comme disait Napoléon, c'était l'inconvénient, ait cru à ses billevesées. Puis il y a un prêtre aussi qui va administrer l'extrême onction, qui va dire la messe à Longwood tous les dimanches. Donc voilà, c'est un entourage. Napoléon était parti de Paris pour aller à Rochefort avec 60 personnes. On l'oublie souvent, c'était un vrai cortège. Mmh. Il termine à Sainte-Hélène avec une dizaine de personnes autour de lui.
Quelle terrible déréliction. Le dictionnaire historique de Sainte-Hélène de Jacques Massé a été réédité dans la collection Texto, donc chez Talendier. Il faut aller visiter absolument cette exposition du musée de l'armée, dont le catalogue a été coédité avec Gallimard, et il est remarquable ce catalogue. C'est pas parce que vous y participez que je dis ça, Thierry Lenz. On pourrait citer beaucoup d'ouvrages, beaucoup de choses sur cette affaire de Sainte-Hélène. Allez sur le site internet, tout simplement. Et je sais que vous êtes en train, vous, de travailler sur la biographie de Joseph Bonaparte.
Oui, sa biographie que j'ai donc rédigée sortira au début du mois de septembre.
Bien, vous viendrez nous en parler, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci Thierry Lenz.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec une question de Laure pour vous, Franck Ferrand, sur le site europe1.fr. Bonjour Franck, il m'arrive de cuisiner la recette du poulet maringot pour mes enfants. Et je m'interroge, ce plat a-t-il un rapport avec la bataille napoléonienne?
Et comment qu'il a un rapport avec la bataille napoléonienne? Le poulet maringot a été cuisiné, a été inventé au soir de cette bataille, de cette victoire de Bonaparte, le 14 juin 1800, victoire face aux impériaux dans le Piémont. À l'issue de cette bataille, que je ne vais pas vous raconter là maintenant, mais qui a été un moment particulièrement difficile, héroïque, le premier consul est épuisé et il a faim, très faim même, ça l'a creusé, si l'on peut dire. Il va donc demander à son cuisinier, qui s'appelle Dunant, de lui préparer quelque chose. Alors Dunant fait l'inventaire de ce que les cantines ont pu rapporter, c'est-à-dire que là, l'intendance n'a pas suivi, il a très peu de choses, il a un ou deux poulets sous la main, de l'ail, on est à Marengo après tout, quelques tomates, de l'huile d'olive, une goutte de cognac, et bien voilà, il va faire fricasser tout ça. Napoléon trouve ça délicieux, il apprécie au-delà de ce qu'on peut dire, et désormais, très souvent, il va demander à ses cuisiniers de lui refaire le fameux poulet qu'on appelle donc le poulet Marengo. Reste à savoir si Napoléon prenait vraiment le temps de savourer son poulet Marengo, parce que vous savez qu'il passait très peu de temps à table. C'était d'ailleurs effrayant pour les invités, puisque entre le moment où il s'asseyait et celui où il se relevait, on avait à peine eu le temps de toucher au hors-d'œuvre. Ça durait, disait-on, rarement plus d'un quart d'heure, un repas avec Napoléon. Alors, à ce propos, une petite anecdote que nous raconte le cher Pierre-Louis Rodrer, qui était un conseiller d'État, un personnage assez remarquable et un bon historien. Il raconte ça dans ses mémoires. Quelque temps après sa nomination au consulat, raconte Rodrer, on représenta à Napoléon que ses dîners étaient trop brefs. Il l'allongea de quelques minutes. Je lui dis à ce sujet, « Général, vous êtes devenu moins expéditif à table. » Bonaparte me répondit, « C'est déjà la corruption du pouvoir. »